Bonjour à tous. Je me réjouis de vous voir nombreux quand même en cette période des vacances. Et vous allez comprendre pourquoi le sujet de ce matin, ça s'appelle, ou le titre de ce matin, c'est Un temps pour se reconnecter. Parce que ça y est, le temps des vacances est arrivé. Alors, c'est le 1er juillet qui marque symboliquement l'entrée dans le temps des vacances. Et demain, on est le 14 justement, et entre le 14 juillet et le 15 août, vous savez qu'en France, c'est la période la plus creuse de l'année. Et en plus, le soleil est au rendez-vous depuis plusieurs semaines. Alors, il y a un écrivain américain qui est mort en 2023, Robert Orben. Je ne connais pas, mais il écrivait des comédies. Et il a dit ceci à propos des vacances. Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. C'est une belle illustration, je pense, de ce qu'on se représente dans notre esprit quand on évoque les vacances. Parce qu'on va en parler ce matin. Et vous allez peut-être trouver le sujet un peu léger pour un enseignement de culte, mais je crois que nous voulons tous passer de bonnes vacances, n'est-ce pas? Je vais donc vous partager quelques réflexions. On verra, on parlera un peu du temps, du loisir, beaucoup du travail. Et puis voir comment tout ça est entrelacé, parce que la notion de vacances n'existe que par complémentarité avec la notion de travail. Et quand je parle de travail, il faudra comprendre ce matin la notion de travail dans son sens le plus large. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'emploi qui nous fait gagner notre vie, mais pour les jeunes et les enfants qui sont ici, c'est l'école, les études. Ça peut être un engagement bénévole qui prend une grande partie de notre temps. Bref, tout ce qui structure notre emploi du temps et qui nous demande un effort ou un investissement de manière régulière, organisée et cadencée. Et je crois qu'en disant ça, on a compris, on est tous concernés ici, qu'on soit élève, étudiant, actif ou retraité. Alors, j'ai deux questions à vous poser et je commencerai par une question très simple pour qu'on puisse rentrer dans le sujet. Et là, je vais vous demander de participer. Généralement, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Oui, plus fort? On se repose. On dort. Oui. On se détend. Très bien. Oui, on se distrait. Voilà. Alors, vous avez vu, on se détend. On se repose. La tranquillité, tout ça, c'est des notions qui sont présentes pendant les vacances. Et on participe aussi, je crois que je l'ai entendu, on fait quelques activités. Et à propos des activités, vous le savez peut-être, la lecture, ça fait partie de la détente et du repos. La lecture, c'est une des activités préférées que font les gens en vacances. Il paraît qu'il y a 9 Français sur 10, et je sais que mes filles en font partie, elles font beaucoup de lecture pendant les vacances. Et c'est la première activité qui ressort des enquêtes. Alors, il y en a qui partent en vacances, 2 Français sur 3 à peu près, au bord de la mer, à la montagne, à l'étranger, où nos frères et sœurs qui viennent d'autres pays rejoignent la famille dans le pays d'origine. On fait de la randonnée, on fait du vélo. Il y a beaucoup de gens qui restent aussi tranquillement chez eux pour profiter du jardin, cultiver leur potager. Et puis, il y a des images d'Épinal, des scènes classiques, les enfants qui jouent avec les cousins, qui se retrouvent chez les grands-parents. Voilà, tout ça, c'est un peu l'imaginaire des vacances. Mais il y a quelque chose qui ressort toujours, et c'est bien ressorti dans les réponses que j'ai reçues, c'est cette notion de décrocher par rapport au rythme du reste de l'année, et aussi à ne pas avoir à surveiller constamment sa montre. En fait, les vacances, c'est vu comme une parenthèse qui est vraiment différente par rapport au reste de l'année. Et maintenant, j'ai une deuxième question. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on a tant besoin de vacances? Vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vacances?
Parce qu'on est fatigué.
Oui, parce qu'on est fatigué. Oui. Voilà. Se régénérer. Voilà. Voilà. Vous avez vu, il y a eu un petit temps d'attente parce que la réponse est moins évidente. Et on va le voir. Parce que la question, en fait, elle est très courte, mais elle n'est pas si simple que ça. Et je vous propose un cheminement en plusieurs étapes. Pour essayer de répondre à cette question, gardez-la dans votre esprit. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de vacances? Et je ne vais pas encore donner la conclusion de cette partie-là, mais on va découvrir ensemble ou redécouvrir que ce qui nous paraît évident aujourd'hui, comme avoir des vacances, ça ne l'est pas forcément si on se place dans une perspective purement biblique. Et après, dans un deuxième temps, on va voir que le temps des vacances, c'est une formidable opportunité pour nous, chrétiens, et une opportunité qu'on doit absolument mettre à profit dans le cadre de notre vie spirituelle. Alors on y va. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vacances? Et pour ça, pour essayer de répondre, on va commencer par remonter le temps. On va remonter très loin dans le passé, jusqu'à la création du monde. Et dès l'origine, il y a un fait, c'est que l'homme a besoin de repos. Le mot repos est ressorti plusieurs fois tout à l'heure. L'homme a besoin de repos, tout simplement. Et ça, dès le début, depuis qu'Adam et Ève ont été créés par Dieu. Alors on entend parfois dire que la fatigue est un des effets qui découle de la chute. Et il y en a, certains, ils pensent que le monde tel que Dieu l'a créé initialement ne pouvait pas comporter quelque chose de négatif, la fatigue pouvant être comprise comme telle, parce que ce serait une marque de faiblesse. Et ce serait en quelque sorte un petit défaut dans la création. Je pense que c'est une mauvaise interprétation du récit de la création. Dieu a créé le monde à partir de rien. Et il a créé de la matière avec ses lois physiques. Il a créé les organismes vivants avec toutes les lois biologiques. Et il y a de grands principes qui sortent de ces lois. Il y a, je ne vais pas faire de science, mais il y a la consommation d'énergie, la déperdition de chaleur, et puis une production de déchets, c'est-à-dire tout ce qui reste après que l'énergie a été tirée de la matière ou d'une substance. Et ces règles ont été mises en place dès l'origine. Et la Genèse nous dit à plusieurs reprises que Dieu déclara ce qu'il a créé, et Dieu l'a déclaré bon. Et si on regarde Genèse 2, verset 16, à propos de ce qu'a dit l'Éternel à nos premiers parents, donc juste après la création, l'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mourras certainement. Quand Dieu dit ça, c'est bien de nourriture physique dont il est question ici. Nourriture qui, une fois absorbée, sera digérée via tous les processus biologiques. Et par cet ordre divin, on découvre qu'Adam a besoin d'énergie physique pour entretenir son organisme. Il y avait un phénomène naturel, on peut le dire d'usure, de transformation de la matière, tout simplement, pour maintenir le corps physique d'Adam en bonne condition. Et on peut encore aller un peu plus loin. Le récit de la création parle de deux arbres particuliers. Je viens d'évoquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre interdit, il ne fallait pas y toucher. Mais je pense que quelqu'un pourra me citer facilement le deuxième arbre. Quel était le deuxième arbre qui était placé dans le jardin? L'arbre de la vie. Et celui-là, c'est un arbre tout à fait spécial. En plus, il était situé au milieu du jardin. Et on peut lire toujours dans le chapitre 2, au verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. » Et là, j'ouvre une parenthèse. Je pense qu'on n'a pas idée de ce qui se cache derrière cette expression « toutes sortes d'arbres ». J'ai trouvé sur le site d'une agence ministérielle qui dépend de l'ONF, on a recensé dans le monde 73 000 espèces d'arbres différentes et on estime qu'il en reste encore plusieurs milliers à découvrir. Alors relisons ce verset complètement. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal dont on a déjà parlé. » Alors vous imaginez, 73 000 sortes d'arbres, et l'interdiction de manger porte seulement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut donc dire, on peut en déduire logiquement, que l'arbre de la vie était bon à consommer, ou plutôt les fruits de cet arbre. Et là j'ai la Bible de John MacArthur, et lui il dit dans ses commentaires, dans les commentaires de ce verset, il écrit que l'arbre de la vie était un véritable arbre avec des propriétés qui permettaient de soutenir la vie. Et Adam mangeait certainement ses fruits pour vivre. J'ai même envie de dire qu'Adam mangeait ses fruits pour ne pas vieillir, pour comme une régénération continuelle de son corps. Alors maintenant, un mot sur l'activité qui était pratiquée dans le jardin d'Éden. On est toujours dans Genèse 2, et on peut lire au verset 15 que l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et puis le garder. Donc on voit bien que, clairement, avant la chute, le travail existait déjà, et c'était une part importante des occupations de l'homme. Mais quand on aborde cette question des origines, on est souvent amené à juger d'après ce qu'on connaît, nous, depuis notre position dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tel qu'il est après la chute, avec toutes ses conséquences. Et il nous est parfois difficile de ne pas tenir compte de ces conséquences et d'imaginer le monde à son origine, qui était un monde sans nécessité. Alors on peut se poser quelques questions. Dans le jardin d'Éden, un travail pour quoi faire? Cultiver pour quelle raison? Pour amasser? Pour récolter? Pour produire plus? Il fallait aussi garder le jardin. Le garder contre quoi? Contre des bêtes sauvages? Des voleurs de pommes ou de salades vertes? On est avant la chute. Alors pourquoi cultiver? Eh bien simplement parce que Dieu le lui demande. Dieu l'a demandé à Adam, dans l'amour. Adam doit travailler, mais sans nécessité. Il doit garder le jardin, mais sans besoin. Il doit le faire gratuitement, sans effort ni sueur aussi. Et on peut même imaginer que si Adam ne cultive pas, il mangera quand même à sa faim. Et en le cultivant, en même temps, il ne sera pas plus riche qu'avant. Un peu plus tôt, dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 28, il nous est dit que Dieu a béni les hommes et il leur dit de se multiplier et de se rendre maître de la terre. Dans certaines versions, c'est écrit de l'assujettir. Alors l'ordre d'assujettir n'implique pas que la création se trouvait dans un état sauvage, hors de tout contrôle, puisque Dieu lui-même l'avait déclarée bonne. Non. L'ordre d'assujettir signifie qu'il fallait que l'homme exerce un rôle d'organisation sur la terre pour qu'elle puisse fournir ses richesses et accomplir les buts de Dieu. Et personnellement, je suis convaincu qu'il y avait aussi une grande dimension esthétique là-dedans. C'est beau, un jardin, ça se voit tout de suite. Un jardin aménagé, un jardin qui ne l'est pas, on voit tout de suite la différence. Et pour Adam, il n'est pas question de faire produire la terre plus que ce qu'elle donne déjà. Sauf si on considère la création comme un acte inachevé, avec un rôle particulier donné à Adam et à ses descendants, ce que ne dit pas le texte biblique. Parce qu'il faut rester vigilant, on considère parfois dans le christianisme et plus dans les milieux protestants qu'Adam, une fois que la création était achevée, s'était vu confier la responsabilité, en quelque sorte, de prolonger le mouvement ou le geste de Dieu, de développer ce monde, de le construire, de le transformer, disons-le, d'y apporter, d'y entraîner un progrès. On va y revenir. Mais j'ai une question qui peut paraître un petit peu saugrenue. Est-ce que Adam et Ève étaient fatigués et est-ce qu'ils dormaient dans le jardin d'Éden? Vous ne trouverez pas la réponse telle qu'elle dans la Bible. Mais on a quand même quelques indices qui laissent à penser que oui. Déjà, chose importante, on a la succession des jours et des nuits. Ça veut dire que dès le début, dans la création, il y a un rythme, une notion de cycle. D'ailleurs, c'est structuré avec tout le processus de la création, un commencement, une fin, un commencement, une fin, des étapes. Et puis, vous le savez, au moment de la création d'Ève, Adam a été plongé dans un profond sommeil. Ça veut dire que d'un point de vue physiologique, l'endormissement existait déjà dans la création. Et puis, un petit détail qui me plaît bien, il y avait la brise du soir, lorsque Dieu parcourait le jardin d'Éden, en fin de journée. C'est précisé dans l'histoire de la chute. Et je pense que vous l'avez déjà expérimenté, cette brise du soir, parce qu'elle existe encore. C'est le moment de la fin de la journée. C'est un sentiment apaisant. On sent que quelque chose se termine. On va vers le calme et la quiétude. Et il y a une atmosphère vraiment de tranquillité, de sérénité. Il y a aussi le vent qui transporte les odeurs de la nature dans la fraîcheur du soir. Aujourd'hui, la brise du soir, c'est le changement, les petits changements thermiques, ça annonce toujours un temps de repos et on sait qu'on va pouvoir se reposer avant de rattaquer le lendemain. Mais au-delà de ces quelques considérations, ce qui est très intéressant et précieux dans le texte biblique, c'est que même dans le verset qui parle de la brise du soir, on y apprend surtout, et c'est surtout, que l'Éternel Dieu parcourait son jardin et avait l'habitude d'échanger avec Adam et Ève, tous les jours. Et dans cette première séquence de l'humanité, on a un équilibre parfait équilibre parfait entre le travail, le repos. Et tout ça, c'était inclus, c'était baigné même dans une proximité parfaite avec le Créateur. Et le texte, finalement, malgré le peu qu'il nous livre, nous dit clairement que le monde est sorti parfait, achevé des mains de Dieu. Genèse 2, verset 2 dit que Dieu a achevé son œuvre. Le verbe achever veut dire terminer. Donc, dans le monde d'avant la chute, pas besoin de vacances. L'ordre qui règne dans la création est d'une harmonie parfaite. Tout s'équilibre spontanément. Tout ce que Dieu a mis en place est vraiment très bon, n'est-ce pas? Et puis survient la chute. Et là, tout s'effondre. Il y a eu beaucoup de conséquences à la suite de l'irruption du péché dans le monde. La plus grave, ça a été rappelé ce matin, c'est la mort spirituelle. Celle-ci, elle a été immédiate. Et la relation avec Dieu s'est coupée instantanément. La mort physique n'est qu'une conséquence secondaire. Conséquence importante, c'est évident, mais elle est secondaire. Et elle est nécessaire car Dieu est saint et ne peut tolérer le péché. Et si l'homme n'est pas mort immédiatement au moment de la mort spirituelle, c'est par la seule grâce de Dieu, parce que Dieu avait déjà en vue le plan de rédemption. Mais ce qui s'est passé, c'est que le corps de l'homme a immédiatement été transformé, et le corps est devenu sujet aux maladies et au vieillissement. L'homme, il a été chassé du jardin, et l'homme n'a donc plus la possibilité de manger de cet arbre de la vie, cet arbre qui soutenait la vie. Alors, il y a eu d'autres conséquences de la chute, avec les bouleversements qui ont touché la création elle-même, et la terre en particulier. Si vous regardez Genèse chapitre 3, au verset 18, vous pouvez lire que le sol a été maudit à ce moment-là, et que c'est donc avec peine que l'homme, dorénavant, allait devoir tirer sa nourriture. Donc, là où avant, il suffisait de ramasser ou de cueillir, il faut maintenant gratter le sol, arracher les mauvaises herbes en s'abîmant les mains avec les ronces, qui n'existaient pas avant, et en transpirant à grosses gouttes. Jusqu'à la chute, jusqu'ici, Adam n'avait pas à forcer la terre. Il n'avait pas besoin de la meurtrir de sillon, pas plus qu'il ne fallait contraindre la terre de lui donner. En Éden, tout était don de Dieu. Tout était don de Dieu. Et Adam et Ève étaient nus et sans outils. Et le fait qu'ils soient sans outils, c'est un détail qui a une grande importance, vous allez voir. Après la chute, le travail a donc changé de nature. On passe du travail plaisir à celui de corvée indispensable si on veut continuer de manger à sa faim. J'ai dit tout à l'heure qu'il est assez courant dans le milieu protestant de considérer que Adam, une fois que la création était achevée, qu'Adam s'était vu confier la responsabilité de prolonger le mouvement de Dieu et de développer ce monde en y incorporant la notion de progrès. Mais en fait, c'est un faux argument qui sert à justifier ce que nous estimons aujourd'hui être une grande réussite de l'homme, et là je mets l'homme avec un grand H, une grande réussite de l'homme, à savoir la technique. Et je vous propose de regarder ça d'un peu plus près. On va passer un peu de temps là-dessus. Certains, au fil des générations, ont cherché à élaborer une théologie du travail et de la technique à partir des premiers chapitres de la Genèse. En quelque sorte, Dieu aurait appuyé sur le bouton pour donner une impulsion génératrice, et puis il serait à l'origine de la technique et du progrès. Et il n'appartiendrait qu'à l'homme, au fil des générations, de découvrir dans la nature toutes les possibilités que Dieu y aurait mystérieusement cachées. Mais je pense qu'on se trompe dans cette voie. La technique et le progrès ne sortent pas de l'Éden. Rappelez-vous toute cette première partie. La technique et le progrès ne sortent pas de l'Éden, mais au contraire, de sa disparition. Et on peut trouver une preuve de cette affirmation dans Genèse chapitre 4, au verset 22, où il est dit que Tubal-Caïn, l'un des descendants de Caïn, forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Autrement dit, c'est lui et ses descendants qui ont inventé les outils en métal, donc par extension toute la métallurgie, et qui marquent vraiment les débuts de l'entrée dans l'ère de la technique. Et donc là, l'homme change de monde. L'homme entre dans un monde de nécessité et d'utilité. Et ce sont les débuts d'une société où ce qui domine maintenant, c'est la valeur des choses en fonction de leur utilité et de leur efficacité. Alors, même si l'humanité rentre là dans une dimension technique, il faudra encore beaucoup de temps pour que ce phénomène parvienne au système généralisé dans lequel on est aujourd'hui tous plongés. Je ne vais pas faire d'historique détaillé du développement des sciences et des techniques, mais je voudrais quand même faire quelques remarques. La nature, on l'a vu, fut le milieu naturel, originel de l'homme. Un milieu qui a ensuite été remplacé par celui de la culture et des traditions. Et si on regarde l'histoire de l'homme dans son ensemble, on s'aperçoit que cette période a été dominante. On peut prendre une image assez parlante. Au temps d'Abraham, donc au temps des patriarches, Abraham, il est parti d'Ur en Chaldée. Et à l'époque, Ur, c'était le royaume des Sumériens. Et les archéologues sont unanimes là-dessus, c'était un des royaumes qui était marqué par des avancées techniques extraordinaires pour l'époque. Donc, quelqu'un qui vivait au temps d'Abraham aurait probablement été moins déphasé dans la France de Louis XIV qu'un soldat de Napoléon, il y a tout juste 200 ans, dans la France d'aujourd'hui. Parce qu'en gros, durant toute cette période, qui va de la charrette tirée par des bœufs jusqu'au fiacre tiré par un cheval, le champ de la technique se trouve assez limité et il reste confiné au domaine local. Ce n'est pas encore une réalité universelle. Mais ça va changer. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec l'arrivée de la machine à vapeur, et donc là, la transformation s'accélère. Et ça marque les débuts de la révolution industrielle. Vous connaissez tous l'histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, on a vraiment basculé vers une société technicienne, modestement au début, et puis ça n'a jamais cessé de s'accélérer. Et à partir de là, l'homme, qui est fasciné par les effets des possibilités techniques qu'il découvre, remet progressivement toute autorité à la technique. Il faut admettre, les bénéfices en termes de confort et puis de qualité de vie sont formidables. On en profite tous aujourd'hui. Et je ne voudrais pas revenir en arrière. Mais ça a un coût. L'homme perd sa liberté pour rentrer dans un système. Il rentre dans un phénomène qui va finir par l'emporter complètement. Et ce bouleversement était unique dans l'histoire de l'humanité, à la fois par l'ampleur qu'il a pris, et aussi par la vitesse à laquelle il s'est mis en place. Et en moins de deux siècles, en moins de 200 ans, il y aura plus de progrès techniques que durant toute l'histoire humaine. Et d'ailleurs, en ce moment, on vit une autre révolution, on parle nouveau de révolution, puisqu'on parle de révolution numérique, et je crois qu'elle va encore plus vite, elle s'appuie sur la précédente, mais elle va encore plus vite. Et donc aujourd'hui, la technique a envahi tous les aspects de notre vie et de notre quotidien. Tous. À tel point qu'elle fait devenir un acte technique, même ceux qui n'avaient absolument pas vocation à le devenir. Comme par exemple lire sa Bible sur un smartphone. Le déroulement de notre culte, en ce moment même, fait largement appel à la technique. Qui se dirige encore aujourd'hui à l'aide d'une carte routière ? Quasiment tous nos trajets sont régis par le GPS. Même pour marcher, se promener, on a maintenant des applications qui calculent la distance parcourue, le dénivelé, les calories dépensées, etc., etc. Tout ça est très intéressant et même pratique. Mais à la vérité, est-ce que c'est vraiment utile ? Peut-être. Est-ce que c'est indispensable ? Assurément non. La technique nous en sert de toutes parts et finalement pourrait bien faire partie intégrante même de notre corps physique, bientôt. Certains parlent de notre esprit. L'angle augmenté dont on parle n'est peut-être pas si loin. Et notre société occidentale, du moins, s'est organisée comme une immense machine. En fait, c'est devenu un système technicien autonome qui fonctionne tout seul, qui a englobé pas seulement tous les aspects de la vie de l'homme, mais l'homme lui-même. On dit souvent l'homme est soumis au système, l'expression est souvent répétée, mais finalement, quand vous prenez le temps d'y réfléchir, c'est exactement ça. Nous vivons collectivement dans une organisation, dans un système, dans un ensemble de mécanismes qui sont tous orientés vers une direction, toujours plus d'efficacité. Nous vivons dans un système clos et autonome. Ce système, il exclut Dieu depuis longtemps déjà. Mais maintenant, il est même en train d'exclure l'homme, alors qu'il avait été au départ fait pour lui. Il y a un autre coût à payer, donc perte de liberté, mais il y a un autre coût à payer dans cette société technicienne. Je vous avais dit que ce serait long pour savoir pourquoi on a besoin de vacances. À vivre en permanence dans un tel environnement, l'homme ne peut pas rester indemne de toute conséquence. Ce n'est pas possible. L'homme n'est pas fait pour les grandes vitesses. C'est grisant, mais l'homme n'est pas fait pour les grandes vitesses. Ni pour un travail statique, en bureau, 8 heures par jour, tous les jours. Ni pour être sollicité, parfois des centaines de fois chaque jour, dans votre activité, dans le cadre du travail. Chacun ce matin pourrait donner en exemple sa propre situation. Et vous allez peut-être me dire que l'homme possède quand même une grande capacité d'adaptation. C'est vrai, l'homme est capable de s'adapter. Mais à quel prix et jusqu'où? Car il y a forcément des limites. Et quand on parle des limites, là encore, on va faire appel au moule de la technique et de l'organisation pour gérer ces limites. On va aménager le poste de travail pour l'ouvrier d'usine ou l'employé de bureau. On va mettre en place des suivis médicaux, des suivis, des soutiens psychologiques, tout ce que vous voulez. On va aménager le temps de travail. On va favoriser le télétravail pour éviter les transports en commun, pour réduire le stress. On va prescrire de la kiné. On va mettre des filtres sur les écrans, etc., etc. Vous avez compris. On essaie de rendre le système supportable dans la durée par la mise en place d'autres solutions techniques. C'est toujours la même rengaine. Le système reboucle sur lui-même. Et dans ce contexte, il faut bien que ça reste quand même globalement supportable. Il faut bien faire tourner l'économie. Et c'est là que nous pouvons enfin apporter une réponse à la question « Pourquoi nous avons tant besoin de vacances ?» Parce qu'elles sont nécessaires pour tenir le rythme dans la durée. On en a tous besoin. Et le repos hebdomadaire que Dieu avait ordonné par l'instauration du sabbat, et ben ce repos hebdomadaire ne suffit plus. Donc, les vacances sont en définitive une lointaine conséquence de la chute dans notre contexte de modernité et de technicité. Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir, même avec la vie difficile, mais proche de la nature, qui était celle au début de l'humanité et juste après le déluge. Rappelez-vous ce qu'on a déjà dit. La technique et le progrès ne sortent pas de l'Éden, mais au contraire de sa disparition. Alors, comme la technique est une conséquence de la chute, on peut se poser cette question. Est-ce que la technique, c'est bien ou mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sort de la chute. Est-ce que c'est bien ou mal? Ouais, je vois. C'est la bonne réponse. On pourrait être tenté de porter un jugement moral sur la technique et le progrès qui est associé. Il y en a qui l'ont fait. Si vous regardez au XVIIe siècle, les membres d'une communauté anabaptiste, dirigée par Jacob Amann, ont considéré que c'était plutôt mal. Et ils se sont réfugiés, bon, on les a aussi un petit peu contraints, mais ils se sont réfugiés en Pennsylvanie pour mener une vie simple, à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur. Et aujourd'hui encore, les Amish, c'est comme ça qu'on les appelle, sont connus pour ce mode de vie hors du temps. D'autres se positionnent selon l'usage qu'on fait de l'objet. Le pied de biche dans les mains du couvreur pour retirer un clou et réparer une toiture serait positif. Mais le même pied de biche dans les mains du cambrioleur pour forcer une porte serait alors négatif. On a pu entendre des raisonnements un petit peu sur le même principe qui était dans le contexte de la violence des mineurs, vous savez, les attaques au couteau. Et on a, qu'est-ce qu'on fait du couteau? Et on a commencé à philosopher sur le couteau. C'est une mauvaise question. Dans un autre registre, et tout aussi sérieux, vous avez le nucléaire qui serait positif pour produire de l'électricité, la climatisation. Mais s'il est mis au service d'un régime politique hostile et non démocratique, il devient négatif. Vous voyez vers quel pays je regarde. Prenons simplement l'exemple de Noé. C'est l'Éternel Dieu qui a fait les plans du bateau. Mais c'est Noé qui l'a construit. Avec des outils.
fait par la main de l'homme et avec des matériaux qu'il a extraits de son environnement. Je pense aux clous et puis aussi au bitume pour faire l'étanchéité du bateau. Dieu, en quelque sorte, s'est servi des savoir-faire de l'époque pour sauver l'humanité. Et beaucoup plus tard, les pharisiens ont bien essayé de coincer Jésus sur un sujet qui est comparable. C'est au moment où ils l'ont interrogé à propos de l'impôt qui était à payer à César. C'est du même type, parce que l'argent, là il s'agit d'argent, mais l'argent, comme la technique, vient de la nécessité qui règne dans un monde déchu. Un monde, je le rappelle, ce qui domine maintenant, c'est la valeur des choses en fonction de leur utilité et de leur efficacité. Est-ce que l'argent, c'est bon ou mauvais? La réponse de Jésus est très instructive. Ni l'un, ni l'autre. Ce n'est qu'une nécessité, celle, comme celle de travailler et d'user du monde, comme on dit. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans toute cette description qui précède, les chrétiens ne sont pas dans leur bulle protégée. Nous sommes en plein dedans. C'est notre quotidien. C'est ce monde dans lequel nous vivons, c'est une des formes très concrètes que prennent les paroles de Jésus dans Jean 17. Vous savez, lorsqu'il dit que ses disciples, il prie, il s'adresse à son Père, et il dit que ses disciples ne sont pas dans le monde. Ils n'appartiennent pas au monde, certes, mais ils sont dans le monde, je dirais, quand même, dans ce monde. Alors, la technique en soi n'est finalement ni bonne ni mauvaise. Mais elle n'est pas neutre non plus. Et elle a un pouvoir immense. Elle fait très facilement le jeu du diable. Car quel est le but de Satan? Eh bien, le but de Satan, c'est de faire contre-coup, à chaque occasion, dès qu'il peut, à l'œuvre de Dieu. Et pour cela, la technique devient, c'est comme une puissance qui devient l'allié de Satan, de l'adversaire. On l'a vu, tous les domaines de la société et de nos vies personnelles sont concernés aujourd'hui par la technique. Et elle aura, c'est certain, un rôle capital dans l'établissement de cette gouvernance mondiale, la Grande Babylone, qui est décrite dans l'Apocalypse. Ça doit arriver, mais nous n'en sommes pas encore là, bien que le processus soit sérieusement enclenché. Aujourd'hui, la technique qui est omniprésente dans notre société vient perturber la relation entre Dieu et les hommes. L'humanité est déjà par nature déchue, elle est déjà coupée de Dieu. Mais l'invasion de la technique ajoute un effet supplémentaire. Elle agit comme un immense écran de fumée, et toujours devant nous, qui l'empêche de voir la main tendue par Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. La technique contribue malheureusement à renforcer la déconnexion générale de l'humanité avec son Dieu créateur. Dans le brouhaha permanent dans lequel l'homme vit, il n'a plus le temps de la réflexion, il n'a plus le temps du recul. Tout est toujours en mouvement. L'homme moderne a toujours quelque chose à faire, toujours un travail à accomplir, un rendez-vous à honorer, un loisir à pratiquer, toujours quelque chose. Et derrière ce quelque chose, il y a quasi systématiquement un support technique. Il y a une machine, un écran, un gadget électronique, un bouton ou une touche sur laquelle appuyer. L'activisme hors sol et qui repose sur un socle de technologie que lui impose cette société ne doit jamais lâcher l'homme moderne. Jamais. Même dans les loisirs. Même pendant les vacances. Si on parle d'industrie du loisir ou d'industrie du tourisme, c'est pas pour rien. Il y a un mois, nous avions Paul Baluet qui était présent, et il a dit lors de sa prédication que les vacances étaient une bénédiction de Dieu et qu'il fallait en profiter. Sachons en effet apprécier le temps de repos et les activités de loisirs que le Seigneur nous accorde. Cela vient de lui, au final. Cela fait partie des belles choses que Dieu, dans sa bonté, accorde aux hommes en général. Néanmoins, nous, chrétiens, on pourrait très facilement aussi être victimes de cette frénésie activistes et techniciennes pendant nos vacances, au grand détriment de notre relation avec notre Créateur. Parce qu'il faut bien le dire, tout le long de l'année, notre relation avec lui est déjà bien souvent mise à mal. Parce que nous devons bien user du monde, c'est une nécessité, on l'a vu. Mais ça ne nous laisse pas indemnes, on y laisse quelques plumes. Le système nous pompe. Notre énergie peut s'épuiser. Notre vivacité spirituelle peut s'affaiblir. On peut baisser la garde. La relation avec notre Seigneur peut se distendre. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'aimerais, dans l'année, être plus disponible pour le Seigneur. Et ce n'est pas nécessairement une question de temps, mais plutôt de temps de cerveau disponible. Car vivre dans notre société provoque une grande fatigue intellectuelle. Je dois progresser pour être plus fidèle au quotidien. C'est évident. Mais si je me mets un emploi du temps de ministre pendant les vacances pour faire ce que je ne peux pas faire le reste de l'année, ou plus égoïstement, pour me consacrer à ce que j'aime faire uniquement, est-ce que je suis cohérent vis-à-vis du Seigneur? Dans la mesure où il permet que j'ai du temps libre, du temps de vacances, temps pendant lequel je n'ai pas besoin de consacrer mon temps et mon énergie pour assurer ma subsistance ou celle de ma famille, ce serait malhonnête de souhaiter une meilleure relation avec lui tout le reste de l'année et de ne pas rechercher davantage de proximité avec lui pendant les vacances. Vous connaissez le dicton « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Si tu ne fréquentes pas Dieu davantage encore pendant les vacances, qu'est-ce que cela montre de ton amour envers lui? Ah, pendant mes vacances, j'ai bien rechargé les batteries. On entend souvent dire ça au retour au travail. Et vous avez noté au passage, c'est une métaphore qui fait encore appel à la technique, parce que les batteries, ça ne pousse pas dans le jardin. Mais quand on dit ça, on fait souvent référence à la seule récupération physique et mentale. Ça fait du bien. Mais pourquoi ne pas profiter des vacances pour se ressourcer aussi spirituellement? Je ne vais pas vous donner de recette toute faite. Mais il y a un principe de base. Il faut se mettre à l'écart. Il faut se retirer du monde pour un temps. Et les vacances sont l'occasion idéale pour ça. Jésus ne prenait pas de vacances, mais les évangiles nous rapportent plusieurs moments, plusieurs épisodes, où il a dit à ses disciples qu'il voulait se retirer pour reprendre des forces physiques et pour prier son Père. Et il faut du calme. Et le choix du lieu est important aussi. J'ai pas mal insisté en rappelant l'état initial de la création. La nature, c'est le milieu naturel de l'homme. Alors, admirez-la, que ce soit au bord de la mer, en montagne ou à la campagne. Et si vous ne partez pas, ce n'est pas la peine d'aller loin. Le fond de votre jardin peut suffire. Et si vous êtes en ville et vous n'avez pas de jardin, allez dans un beau parc. Les psaumes en particulier regorgent de descriptions de la nature. Vous pouvez lire le psaume 48, particulièrement connu pour ça. Il y a aussi le psaume 19 qui, dans ses quatre premiers versets, exprime la pensée. Il exprime que l'observation de l'univers prouve clairement l'existence et la puissance de Dieu. Elle est là, la reconnexion, l'observation de l'univers. L'ordre, la complexité et les merveilles de la création témoignent de l'existence d'un Créateur puissant et glorieux. Vous avez déjà levé les ciels, le ciel en été, par une nuit sans lune. C'est un spectacle qui ne peut qu'encourager à la méditation et à l'adoration personnelle. Ma femme en sait quelque chose. J'aime rester dehors des heures à regarder le ciel et à méditer. Et puis, je vous encourage aussi à lire la Bible en version papier. Je ne juge personne. Mais je vous encourage à la lire en version papier. Pourquoi ? Le contact physique avec la parole de Dieu, le côté tactile. Personnellement, j'y suis très attaché. parle pour moi, mais rien ne peut remplacer une bonne vieille Bible avec des plis. Je sais que j'en vois parfois quelques-unes, avec des versets soulignés, avec des notes rajoutées dans la marge. Il y a presque une relation charnelle avec la parole de Dieu. Je pense que vous comprenez. Je le redis, je ne porte pas de jugement. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose de lire sa Bible au calme, à l'ombre d'un arbre, que de la lire sur son smartphone, même sous le même arbre. Beaucoup ont fait cette expérience, avoir la Bible ouverte devant soi, elle est là, et soudain un verset apparaît, comme en surbrillance, il attire notre attention. Je ne sais pas si c'est possible avec les quelques dizaines de centimètres carrés de l'écran du smartphone, je ne sais pas. Les vacances, c'est aussi l'occasion pour se lancer dans une lecture suivie de la parole pendant l'été. Préférable de commencer par les évangiles, si tu te sens débutant ou si tu as des questionnements par rapport à la foi. Il y a plein de méthodes et aussi des questions par rapport au plan du salut. Mais si tu es un chrétien plus mature, il y a des parties dans l'Ancien Testament qu'on lit peu. Allez, là, je suis sur Deutéronome. Pas très passionnant, le livre du Deutéronome. Ou bien si on n'aime pas l'histoire, quel intérêt à lire les livres des rois ou des chroniques? Et pourtant, c'est l'occasion. Connaissez le passage de 2 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Connaissez ça, on va le lire. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspiré de Dieu, mais écoutez bien la suite, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'écriture. Le Saint-Esprit parle pendant la lecture attentive de la parole. Même en lisant ce que nous aurions tendance à juger secondaire d'après nos critères, il peut nous révéler un aspect particulier. Il faut aussi prendre du temps pendant les vacances pour se remémorer des temps forts qu'on a passés, de sa vie de foi. Ça permet de renforcer la communion avec l'Éternel. Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Remémorons-nous ce que nous avons vécu de fort, d'intense avec Dieu. On peut aussi relire son témoignage, ou bien son verset de baptême, et s'auto-évaluer par rapport à l'engagement qui a été pris en public. Qu'est devenu mon premier amour pour Dieu? S'il est quelque peu refroidi, les vacances sont peut-être le moment de le raviver. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai dépassé la demi-heure. Je ne serai pas plus long, mais voilà quelques réflexions que je voulais vous partager ce matin. Notre bonne santé spirituelle est quelque chose que nous devons tous surveiller et nous devons tout faire pour l'entretenir. J'ai seulement souhaité vous donner quelques pistes. Il y en aurait d'autres à développer. Et j'espère aussi que vous m'avez compris, je ne suis pas anti-technique et je ne suis pas rabat-joie. Profitez bien de vos vacances. Et j'imagine même que vous avez fait un programme de vacances et c'est très bien. Il y a en effet un temps pour tout. Mais si vous voulez des vacances qui soient pleinement optimisées, là aussi, j'utilise volontairement ce terme qu'on entend souvent dans le monde du travail, si vous voulez des vacances qui soient pleinement optimisées, prévoyez aussi dans votre agenda de larges places pour la simple contemplation de l'Éternel et la méditation de sa parole. Prévoyez-le dans vos agendas. Je serai heureux d'avoir quelques retours à la rentrée en septembre. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles vacances à tous.